Vous écoutez RTL.
Tout de suite, on part à la rencontre des chevaliers sur RTL. Bonjour Gaëlle Renouvelle, je vous laisse avaler votre gorgée de champagne.
Merci.
Vous êtes journaliste à Ça m'intéresse histoire, vous publiez un dossier passionnant sur les chevaliers, c'est en partenariat avec RTL. Et vous nous dites qu'ils étaient les super-héros du Moyen-Âge. Pourquoi ?
Bah oui, à l'époque, on admire leur exploit à la fois sur les champs de bataille et aussi lors des joutes. Et en plus, il y a les chansons de gestes et les grands romans comme les chevaliers de la table ronde, bien sûr, qui contribuent un petit peu à faire leur pub et à les rendre encore plus populaires.
Donc, ce sont des stars un peu comme les comédiens qui incarnent Batman, Superman
voilà,
et compagnie.
C'est exactement ça. C'est les super-héros de l'époque.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils nous fascinent toujours autant, les chevaliers ?
Bah oui, parce qu'on voit que régulièrement, il y a des films qui sortent, des séries. Même dans Game of Thrones, on a des chevaliers qui sont un petit peu réécrits, bien sûr. Mais on les a quand même.
On est dans cet univers quand même,
toujours,
oui, d'une certaine façon.
Et puis, par exemple, on a aussi des jeux vidéo. On a Ubisoft qui a sorti l'année dernière un grand succès pour eux qui s'appelle For Honor, où on retrouve aussi ces super combattants.
Vous voulez devenir chevalier ? Eh bien, on va s'équiper dans 2 minutes sur RTL. Attention, c'est un peu lourd à porter.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Il était une fois un preux chevalier. Beau, noble et fort.
Thomas Hugues.
Partout où il allait, il apportait la justice et la clémence. Il se consacrait à Dieu et à l'amour. Souvent fois, il sauva une damoiselle en détresse.
Sidonie Bonnec.
De tels chevaliers existaient-ils vraiment au Moyen-Âge ?
Bienvenue voilà. Sur RTL, les curieux.
Vous m'avez sauvé, Thomas Hugues. Vous êtes mon chevalier pour la fin des jours, mon chevalier de radio.
Oui, vous faites très bien la gente dame. Les chevaliers super-héros du Moyen-Âge, c'est le thème de notre curiosité, en partenariat avec Ça m'intéresse histoire et donc la journaliste Gaëlle Renouvelle. Allez, on imagine que je me prépare pour une bataille, je vais m'habiller. Je commence par quoi ?
Alors déjà, il va vous falloir un petit peu de temps, parce que ça prend une heure pour s'habiller.
Je lui file un coup de main, c'est pas grave.
Bah voilà, vous ferez l'écuyer parce qu'il a besoin de son écuyer, donc c'est
d'accord,
parfait.
Ça vous ira très bien, ce petit métier.
Avec plaisir.
Vous allez commencer d'abord par mettre des vêtements rembourrés, comme le gambison, qui est une robe de toile très très épaisse. Ouais. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'armure proprement dite.
Et la cotte de maille, ça se met avant l'armure ? C'est quoi la cotte de maille
exactement ? Alors, la cotte de maille, effectivement, c'est une sorte de grande tunique en petites pièces métalliques, qui va aussi contribuer à vous protéger.
Et ça pèse lourd, ça ?
Ouais, ça pèse son poids, ça pèse 12 kilos quand même.
Ah oui,
d'accord, oui, ça fait déjà là, d'un seul coup,
donc
j'ai moins envie d'y aller.
Il y a le corps et il y a la tête à protéger, évidemment.
Ouais,
ça, c'est vraiment
c'est
capital. Qu'est-ce qu'on met sur la tête du chevalier ?
Alors,
le chevalier Thomas.
Le chevalier Thomas va mettre son home. Donc, c'est effectivement le fameux casque en métal. Donc là, c'est un casque qui est complètement fermé. Il y a juste des petites fentes pour que vous puissiez voir et quand même respirer. Et il a une particularité, c'est qu'il est en forme d'une sorte de bec. Comme ça, les coups vont ripper dessus.
C'est un peu aérodynamique en quelque sorte.
Il faut un bouclier
aussi, non ?
Ça serait sympa, oui.
Ouais, ouais. Il faut son écu ou l'écuyer.
Non, c'est un écu. Ah,
ouais. C'est là où aussi on peut mettre ses armes et on voit les blasons des chevaliers. L'écu, il a évolué au fil du temps. Au début, c'est vraiment un énorme morceau de bois, donc c'est pas très maniable. Ensuite, il va devenir en métal et de plus en plus petit, donc plus facile à manier.
Et presque sur mesure, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Vous pouvez vraiment le faire à votre morphologie.
Ouais.
Et à chaque fois, vous allez retrouver une sorte d'encoche pour mettre votre lance, qui est aussi essentiel.
Hein. Alors, mon Thomas, là, il est habillé. Il a le casque, le home, la cotte de maille et l'armure. Il
et
pèse
il tombe,
combien
et
là ?
Il tombe en arrière, parce qu'il
Il n'a pas l'air très à l'aise. Ça pèse combien le tout ? Plus lourd que lui ou pas ?
Je ne sais pas combien pèse Thomas, mais ça pèse 50 kilos.
Non,
ça doit peser plus.
Je ne pèse pas 50 kilos.
C'est extrêmement lourd.
D'ailleurs.
C'est-à-dire que les chevaliers, ils portaient 50 kilos de matériel pour des heures et des heures de combat ?
Oui, alors ça paraît complètement impressionnant, et ça l'est d'ailleurs. Mais le poids est extrêmement bien réparti sur le corps. C'est-à-dire que le chevalier, il reste quand même mobile. Hein. Il peut vraiment, s'il tombe, il peut se relever, contrairement
d'accord
à ce qu'on peut voir parfois où on a l'impression que c'est fini s'il est à terre.
Oui.
En réalité, non. Il y a des chercheurs qui ont fait des expériences en essayant de se remettre des armures telles qu'elles étaient à l'époque et de combattre. Et en fait, ils y arrivent très bien. Ils disent que c'est à peu près équivalent à l'équipement que peut porter un pompier quand il va au feu. Donc, c'est pas si terrible que ça. Mmh.
D'accord, il faut décrire l'épée du chevalier, forcément. Vous en montrez une dans le Ça m'intéresse histoire, mais il y en avait plein de modèles. Celle que vous montrez, elle ressemble à quoi?
Alors, celle qu'on montre, elle est particulièrement longue, parce qu'elle fait plus d'un mètre. Mmh. Elle est lourde aussi, elle pèse 2 kilos. Donc, en fait, les chevaliers se prenaient leur épée à deux mains. Ils la maniaient à deux mains. Et elle leur servait particulièrement lors des combats à pied. À cheval, c'était la lance.
Ils leur donnaient des petits noms aussi les chevaliers.
Il y en a qui aimaient bien leur donner un petit surnom. Les plus connus, c'est évidemment Excalibur, oui, qu'on retrouve dans les chevaliers de la Table Ronde. Et aussi Durandal, mm-hmm, qui est l'épée mythique de Roland et qui aurait donné la fameuse brèche de Roland.
Et le cheval, un chevalier sans cheval, par définition, hein, c'est écrit dessus, comme dirait l'autre, ça n'existe pas.
On aurait pu l'appeler chevalier.
Voilà, lui aussi, il est protégé, le cheval ?
Oui, lui aussi, il a vraiment le droit à sa propre armure, qui, elle aussi, est faite de plusieurs parties, comme le chevalier. Et lui aussi, il a son home, qui ne s'appelle pas un home, mais lui, un chanfrein pour protéger sa tête.
Mmh. Les chevaliers qui devaient être évidemment de bons cavaliers, à partir de quel âge ils apprenaient ce métier ?
Ça commence tôt, ça commence à 7 ans, comme entre nous à l'école primaire. Et au bout de quelques années d'apprentissage, c'est vrai que c'est vraiment très important d'être un bon cavalier. Donc ils doivent savoir monter à cheval, évidemment, et à se battre en même temps, sans être désarçonné au moindre assaut.
Mais en fait, on dit un chevalier, mais c'est presque un équipage, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Vous disiez l'écuyer, oui. Il a quoi? Il a plusieurs chevaux, par exemple? Comment
Il a même toute une collection de chevaux, puisqu'il a, pour aller au combat, il a son destrier, le fameux fidèle destrier, oui, qui est un cheval qui est costaud, qui est résistant, parce qu'il faut résister aux assauts, et puis aussi les combats durent des heures et des heures. Pour les parades, pour faire le beau, il a son chanfrein, qui lui est un cheval très gracieux, très fin. Quand il doit porter des lourdes charges, il a un sommier. Et quand il doit parcourir de longues distances, il a un cheval qui porte bien son nom, qui est le coursier. Et il a au moins 4 chevaux.
Et pour bien tenir sur ce cheval, le chevalier a des étriers. Quand est-ce qu'ils sont apparus en Europe? Et pourquoi aussi ils ont changé le destin des chevaliers?
Alors oui, les étriers, ils viennent d'Asie. Ils sont apparus en Europe au 7e siècle. Et ça a vraiment révolutionné le combat à cheval, puisque grâce aux étriers, on peut rester bien stable sur son cheval et pas être désarçonné au moindre coup, et combattre en même temps.
Ces hommes, on le disait, sont devenus des héros. On vous présente le chevalier Bayard, forcément, on est rue Bayard sur RTL, et puis la star des tournois, Guillaume le Maréchal.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La carrière de chevalier démarre par une cérémonie solennelle. À 21 ans, le prétendant est adoubé au rang de chevalier. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Voilà les chevaliers du ciel.
La plupart du temps, ce sont les descendants de grandes et nobles familles qui prêtent serment à leur suzerain. Devenir chevalier, c'est devenir un soldat d'élite. On est bien entre curieux sur RTL.
Incomparable, Luis Mariano.
Bel organe, hein,
bel organe, oui, on peut le dire. On remonte jusqu'au Moyen-Âge pour découvrir les exploits des chevaliers. Vous pouvez être fier de vous, Thomas Hugues, avec la journaliste Gaëlle Renouvelle.
En fait, je termine le champagne de notre premier invité, et donc tout va bien.
Savez, on devait finir le champagne avant la fin de l'émission de l'interview champagne.
Oui, mais non.
Passe au chevalier.
Je finis tous les verres de la curiosité, c'est pour ça.
Les coulisses de l'émission.
Avec modération, évidemment.
RTL et encore rue Bayard avant qu'on déménage à Neuilly. On est encore ici pour quelques semaines. On va en profiter pour raconter l'histoire de Pierre Terrail de Bayard. Quand a-t-il vécu et quels furent ses exploits mémorables?
Alors Bayard, c'est vraiment le dernier des grands chevaliers. Il est né en 1476 dans une famille noble du Dauphiné et il a consacré toute sa vie à servir le royaume de France avec effectivement moult exploits, comme vous en parliez.
Et Pierre Terrail de Bayard mène la campagne d'Italie, notamment aux côtés du roi Louis XII. Qu'est-ce qui lui arrive en 1500 1509, précisément.
Alors, en 1509, il remporte la bataille d'Agnadel. Agnadel, c'est une ville à côté de Venise. Et c'est une bataille qui est décisive, puisque ça va permettre au roi Louis XII de prendre Venise.
Alors, il va continuer ses exploits de chevalier. Et là, c'est la bataille que tous les écoliers connaissent. 1515, Marignan, c'est facile à retenir. C'est plus le même roi.
Non.
C'est François Ier. Comment s'illustre le chevalier Bayard pendant cette bataille?
Alors, Marignan, tout le monde connaît la date, mais peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est.
Où ça se passe?
Déjà, ça se passe en Italie, enfin la frontière entre l'Italie et la France. Les Italiens ont fait appel aux Suisses, qui sont des mercenaires et qui sont les meilleurs combattants de l'époque. Et là, Bayard va se battre comme un lion et réussir à gagner cette bataille. Et sa contribution aurait été tellement décisive que François Ier, qui a alors 20 ans, qui est encore tout jeune, aurait demandé à se faire adouber par Bayard.
C'est quoi l'adoubement, pardon? Il faut expliquer ce que c'est.
L'adoubement, c'est la cérémonie, c'est autour de 20-21 ans. Au terme de son apprentissage, l'apprenti chevalier est enfin chevalier. Donc l'adoubement, c'est le moment où son parrain, donc son professeur chevalier, lui donne son épée, son baudrier et ses éperons.
Ça, c'est une cérémonie qui se fait avec beaucoup de monde. C'est un peu grand moment, une fête.
Ouais, c'est un très très grand moment pour le chevalier. C'est une cérémonie qui coûte très cher, notamment, qui est aussi liée à l'Église, hein, puisque le chevalier doit se purifier avant, donc il jeûne. Il y a des prières.
Il passe une nuit blanche. J'avais lu ça. C'est exactement ce qui a donné, en fait, ils sont habillés de blanc, ils ne dorment pas. C'est ce qui a donné l'expression nuit blanche aujourd'hui. Ouais.
Voilà.
Ça, c'est l'un des mots né de cette époque et des chevaliers. Autre mot, le mot galopin. C'était quoi ou c'était qui un galopin?
Alors, le galopin, c'est le premier stade de l'apprentissage du chevalier. Il est tout petit, il a 7 ans et à cette époque-là, il se contente de nettoyer les écuries.
Donc le galopin, c'est le petit gamin qui s'échappe et qui fait des bêtises. Cet adoubement dont vous parlez, moi j'ai l'image, alors peut-être que c'est le cinéma et c'est une fausse idée, de ce coup d'épée, en tout cas de cette épée qu'on place sur la nuque.
Non, ça c'est une réalité. Ça a même un nom, ça s'appelle l'accolade.
D'accord.
Ce geste a remplacé un geste antérieur qui était beaucoup plus violent, puisque le parrain, avant, donnait un grand coup de poing sur la nuque de son élève pour tester sa résistance.
D'accord. Bienvenue chez les chevaliers.
Je vais essayer avec Thomas.
Allez,
il est très costaud, ce garçon.
Oui,
et les femmes dans tout
ça.
C'est vrai. Est-ce qu'il y en a eu des femmes chevaliers? Réponse juste après la pause. Restez avec nous, les curieux.
RTL. Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre.
C'est Denis Bonnet, Thomas Hugues.
En avant, chevalier.
Quoi que ce type est faux allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Et je crois que ce type est faux allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier.
On est bien entre curieux sur RTL.
Camini, Bernard Minet et Johnny Hallyday qui chantaient.
Pour toutes les oreilles.
Mais oui, qui chantaient c'était la bande originale de la série Les Chevaliers du Ciel. On découvre ces super-héros du Moyen-Âge, les Chevaliers, avec Gaël Renouvelle, qui est journaliste au magazine Ça m'intéresse, histoire. Et si Denis posait une bonne question, ça lui arrive. Et si des femmes étaient chevaliers?
Par contre,
est-ce qu'il y a eu des femmes chevaliers?
Oui, alors les pauvres ont été un petit peu oubliés par l'histoire. Il y a eu pourtant plusieurs, on les appelle les chevaleresses. Hein.
Je ne connaissais pas ce mot.
Il y a même un nom dédié.
Les chevaleresses.
Et il y a aussi eu des ordres spécifiques pour les femmes, comme celui de la glorieuse Sainte Marie, qui a été fondée en Italie au XIIIe siècle.
On va un peu parler des stars, des tournois chez les hommes. Est-ce qu'il y a eu des chevaleresses donc, qui ont marqué l'histoire?
Oui, on a notamment Florine de Bourgogne.
Oui.
Alors, Florine de Bourgogne, elle est partie en 1097 en croisade avec son mari à Jérusalem. Elle n'est pas venue pour faire de la figuration. Elle est vraiment venue en armure. Et quand ils ont été attaqués par les Turcs, elle s'est battue jusqu'au bout, à l'instar des hommes.
Est-ce qu'on sait si les armures étaient adaptées à la morphologie féminine pour les chevaleresses?
J'espère. Espérons. Oui, parce que les armures étaient quand même plus ou moins toujours sur mesure. Donc oui, je pense que.
On a parlé de l'équipe du chevalier qui travaillait notamment avec un écuyer, mais qui employait les chevaliers ?
Parce que ça coûte cher.
Ah ouais. Ça coûte effectivement. Donc c'était des grands seigneurs qui employaient les chevaliers, et en échange, donc ils devenaient le suzerain du chevalier qui était son vassal, et en échange, le chevalier recevait une solde et une terre.
Est-ce qu'il se vendait au plus offrant ? Parce qu'il y a un code d'honneur du oui. chevalier, leur histoire est liée, on l'a vu avec les croisades, à la religion. Ouais. Oui. Mais est-ce qu'il se vendait au plus offrant, les chevaliers ?
Une fois qu'on est engagé auprès d'un seigneur, on est si un serment de loyauté, donc on est censé rester auprès de ce seigneur.
Est-ce que c'est ce seigneur qui décide d'organiser un tournoi et de faire courir, je ne sais pas comment on dit, ou concourir, ou jouer tel ou tel chevalier ?
Alors oui, les tournois étaient organisés par des grands barons, donc c'est vraiment un peu le top de la noblesse. Mmh. Et ensuite, effectivement, les chevaliers allaient combattre sous les couleurs de leur employeur, on peut dire, ou de leur suzerain.
Voilà. Et alors, vous racontez dans le Ça m'intéresse histoire, en partenariat avec RTL, ce tournoi organisé en 1183. On est à Lagny-sur-Marne et c'est l'événement, c'est vraiment la Coupe du Monde des Chevaliers, quoi. C'est le Real PSG de l'époque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire.
C'est complètement ça, hein. Faut vraiment s'imaginer dans cette petite ville là, aux confins de l'Île-de-France et de la Champagne, mm-hmm. une ambiance de Coupe du Monde, hein, comme vous l'expliquez. Il y a 3000 chevaliers qui viennent de toute l'Europe, donc c'est énorme, plus leur escorte, ça fait 10 000 personnes. Il y a aussi des filles de joie et autres.
Il y a une star, j'imagine, un Zidane de l'époque.
Exactement, ouais. Ouais, le Neymar de l'époque.
Le Neymar, plutôt.
Oui, merci de choisir le PSG plutôt que le Real, si Denis, ça serait sympa.
Oui, alors le Neymar ou le Zidane de l'époque, c'est Guillaume le Maréchal.
C'est un Français ?
C'est un Anglo-Normand. Donc,
oui, à cette époque-là.
Oui,
bon,
voilà. Mais il roule pour le roi d'Angleterre, qui est Henri II le Jeune. Donc on va dire qu'il est du côté anglais, en tout cas.
Mais quand on dit c'est une star, c'est-à-dire que sa venue fait l'événement, il vient en France pour combattre, c'est ça l'histoire ?
Exactement. En fait, il vient vraiment comme une compétition sportive maintenant. Mm-hmm. Il se déplace d'Angleterre pour aller jusqu'à ce lieu de grande compétition. Et les gens viennent aussi pour le voir. Et pendant ce tournoi, il va réaliser vraiment des exploits et être toujours la star.
Le champion.
Voilà. Alors qu'il a à l'époque 40 ans. 40 ans pour un athlète aujourd'hui, c'est déjà vieux. À l'époque, c'est canonique.
C'est quoi les règles d'un tournoi ?
Alors, les règles d'un tournoi, c'est on s'aligne par équipe. Ouais. Au départ, ce sont des joutes qui sont collectives, donc c'est vraiment plusieurs hommes contre plusieurs hommes. Il y a deux lignes adverses, les chevaliers sont donc à cheval avec leur lance. Mmh. Et le but du jeu, c'est de désarçonner grâce à sa lance l'adversaire, et ensuite de le capturer. Et contre cette capture, il y a une sorte de rançon, donc on gagne de l'argent.
Il y a des combats au sol la capture, elle se passe ensuite.
Ouais, c'est ça, exactement.
On a le droit de tuer dans un tournoi ?
Non. Alors, non, il y a vraiment un code de l'honneur, notamment, qui fait qu'on ne doit pas tuer en temps de paix, là, comme ça. Le tournoi, c'est un entraînement pour la guerre. Et c'est aussi, effectivement, comme on l'a dit, un divertissement pour la noblesse et pour le peuple.
On a vu, grâce à vous, Gaël Renouvelle, qu'il y a des mots qui existent, qu'on utilise encore aujourd'hui et qui sont nés de cette époque chevaleresque. Il y a le blason, vous nous en avez parlé. L'ost, c'est dans le magazine, ça désignait l'armée.
Oui.
Le galopin, ce jeune écuyer. Et notamment cette expression que j'aime beaucoup parce qu'elle sonne bien. Entrer en lice. On dit ça pour un sportif quand il démarre une compétition.
C'est
entrer
ça,
en lice. Ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ?
Alors, la lice, au départ, c'était la palissade qui délimitait l'espace des joutes. Mm-hmm. Par métonymie, c'est ensuite devenu le lieu même de la joute. Donc c'était vraiment entrer dans l'arène, en gros. Hein.
Merci beaucoup, Gaël Renouvelle. Le magazine Ça m'intéresse histoire est en kiosque en partenariat avec RTL.
C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous réécouter en podcast sur RTL.fr.
Vous écoutez RTL.